En commençant par le chapitre 3 du livre de Néhémie, et Eliashib, le grand sacrificateur, et ses frères, les sacrificateurs, se levèrent et bâtirent la porte des brebis. Ils la sanctifièrent et imposèrent les battants. Et ils la sanctifièrent jusqu'à la tour de Méa, jusqu'à la tour de Ananaël. Et à côté d'eux bâtirent les hommes de Jéricho. Et à côté d'eux bâtit Zakur, fils d'Imri. Et les fils de Sénat bâtirent la porte des poissons. Ils en firent la charpenterie et imposèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux répara Meremoth, fils d'Uri, fils d'Akot. Et à côté d'eux Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshézabel. À côté d'eux répara Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux réparèrent les Tekoïtes. Mais les principaux d'entre eux ne plièrent pas leur cou au service de leur seigneur. Et Jaouiada, fils de Paseach, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la porte du vieux mur. Ils en firent la charpenterie, en posèrent les battants et les verrous et les barres. À côté d'eux réparèrent Melatia, le Gabaonite, et Jadon, les Meronotites, les hommes de Gabaon et de Mitzpah, vers le siège du gouverneur de l'autre côté du fleuve. À côté d'eux répara Uziel, fils de Araya, l'un des orfèvres. Et à côté d'eux répara Anania d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem en son état jusqu'à la muraille large. Et à côté d'eux répara Rephaïa, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. Et à côté d'eux répara Jehadia, fils de Harumath, savoir vis-à-vis de sa maison. Et à côté de lui répara Hattush, fils de Hasbania, Malkija, fils de Harim, et Ashub, fils de Pakat, Moab, réparèrent une seconde portion et la tour des fours. À côté d'eux réparèrent Shalum, fils d'Alokesh, chef de la moitié du district de Jérusalem, lui et ses filles. Et Anun et les habitants de Zanoach réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et posèrent ses battants, ses verrous et ses barres, et firent 1000 coudées de la muraille jusqu'à la porte du fumier. Et Malkisha, fils de Rekab, chef du district de Beth, à Kerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et posa ses battants, ses verrous et ses barres. Shalum, fils de Kol et Ozé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la fontaine. Il la bâtit et la couvrit, posa ses battants, ses verrous et ses barres. Il fit aussi la muraille de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descend de la ville de David. Après lui, Néhémie, fils de Hasbuk, chef de la moitié du district de Bethsur, répara vis-à-vis des sépulcres de David et jusqu'à l'étang qui avait été fait et jusqu'à la maison des hommes forts.
Cet après-midi, nous nous sommes occupés des versets 11 à 20 du chapitre 2. Nous avons vu comment Néhémie est maintenant arrivé à Jérusalem. Nous l'avons suivi dans son exercice, dans sa rencontre avec le roi. Le voyage a eu lieu. Le voilà qui arrive. Il y a donc eu chez lui toute cette préparation de cœur. Il a été informé, il a prié, il a fait l'expérience que la bonne main de son Dieu était sur lui. Et il arrive à Jérusalem. Comment va-t-il se comporter? Eh bien, nous reconnaissons la même patience que nous avons déjà vue quand il a attendu 4 mois avant que l'entrevue avec le roi soit possible, avant que l'entretien puisse avoir lieu. Il attend 3 jours. Et nous avons pu comparer avec les 3 jours qu'on trouve dans l'histoire d'Esdras au chapitre 8, verset 32. Également, nous sommes référés à à Josué dans le chapitre 3 de son livre, au verset 2. Nous voyons qu'avec les officiers du peuple, il y a eu 3 jours d'attente avant de traverser le Jourdain. On peut certes y voir la patience, mais il y a certainement davantage dans ces 3 jours qui nous suggèrent la mort et la résurrection, c'est-à-dire la fin de l'homme, la réalisation de que la chair n'a aucun droit, la mise de côté de l'homme naturel. Et voilà sans doute quelque chose dont nous avons besoin de nous souvenir, qu'avant d'entreprendre quelque service que ce soit, nous avons à nous tenir devant Dieu dans le sentiment que l'homme n'est rien et ne peut rien faire. Alors Néhémie va faire le tour des murailles, mais il le fait de nuit. On a pu dire qu'il agit ainsi parce qu'il ne veut pas se mettre en évidence. Il fait cela d'une manière cachée, d'une manière effacée. Le serviteur ne se met pas en avant. Et il ne veut pas attirer l'attention sur lui-même. Il fait donc tout ce chemin, il considère, il examine. Nous sommes reportés à un plus grand que lui dans le chapitre 11 de Marc, où nous voyons notre Seigneur qui, entrant dans le temple, porte ses regards de tous côtés sur tout, prend connaissance de l'état de ce temple et de ce que l'homme en a fait, de toute cette ruine dans le lieu qui était pourtant celui de la présence de Dieu. Et le Seigneur en sort dans Marc et il revient le lendemain seulement pour mettre de l'ordre dans ce temple. Ainsi Néhémie est là, il prend conscience, il prend parfaitement connaissance de la situation. Il est bon pour nous aussi d'attendre. Prendre conscience de la ruine, c'est une chose. Mais n'oublions pas non plus, nous le rappelions cet après-midi et hier aussi, n'oublions pas nos ressources. À ne s'occuper que de la ruine, on plonge les âmes dans le découragement. La ruine ne nourrit pas, l'humiliation ne nourrit pas, nous avons besoin de Christ. Ne perdons pas de vue nos ressources. Alors il y a à la fois, sans doute, le souvenir de l'état dans lequel le peuple se trouve, mais il y a des ressources. Et voilà Néhémie qui va maintenant réunir les anciens, les sacrificateurs, les juifs, les nobles, les chefs, ceux que nous trouvons alors au verset 16e. Il a été dit plusieurs choses au sujet de l'appel d'un serviteur, peut-être appelé et ne pas répondre à l'appel. On peut partir aussi sans avoir été appelé. Ici, n'est-ce pas, nous avons un homme qui a été appelé et qui part. Et on a rappelé aussi que la constatation d'un besoin n'était pas nécessairement un appel à y répondre. Alors, voilà, Néhémie a constaté le besoin. Il a d'abord entendu parler, il l'a constaté de ses yeux, mais il est appelé par le Seigneur à y répondre. Alors, il y a une différence, a-t-il été dit, entre l'énergie et la précipitation. Voyons, aucune hâte, aucune précipitation. Tout va être fait devant Dieu et dans la communion avec ceux qui sont là. Important cela, et il a été insisté sur le fait de la nécessité pour un service pour le Seigneur, qu'on a reçu directement de lui sans doute. Il y a les relations personnelles que chacun doit avoir avec le Seigneur pour un service, mais là le prix qu'il y a à agir dans la communion avec l'Assemblée. Le service se fasse dans le plein sentiment de la communion de ses frères. Plusieurs exemples ont été pris dans le livre des Actes. Un serviteur est appelé, il est formé et il est envoyé. Dire que c'était une école privée, mais que l'on n'agit pas dans l'indépendance. Pourtant, ça nous en besoin de nos frères, soit pour nous corriger, pour nous aider et pour prier pour nous. Et nous sommes heureux de voir là Néhémie maintenant qui rejoint ses frères. Mais ses frères n'avaient pas le même exercice que lui. Visiblement, il se trouvait là au milieu des ruines, il s'y était habitué, c'était un spectacle familier. Le soleil se levait chaque jour sur ces ruines, et à la longue, on en avait pris l'habitude. On en prenait son parti. Alors, il fait partager son exercice, c'est ce que nous avons au verset 17, et nous sommes arrêtés longuement sur ces versets 17 et 18. Alors, voilà Néhémie qui fait partager cet exercice. Vous voyez la misère dans laquelle nous sommes. Vous voyez cela. Jérusalem est dévastée. Ses portes sont brûlées par le feu. C'est la troisième fois que ce détail est donné. Et puis, venez et bâtissons la muraille de Jérusalem. Très, très beau de voir que ce serviteur ne se place pas au-dessus de ses frères. Il ne vient pas de Suse avec un ordre de mission du roi en tant que gouverneur, comme inspecteur, pour diriger les travaux, pour donner des ordres, ni pour reprendre ses frères brusquement, leur disant « Comment avez-vous pu laisser un tel état de choses aussi longtemps ?» Il n'aurait pas été accepté, mais en plus ce n'est pas agir selon Dieu. Il se met à leur portée, à leur niveau. « Venez, bâtissons, travaillons ensemble. Je suis concerné aussi. » Et il est là alors, afin que nous ne soyons plus dans l'opprobre. Il nous a été rapproché du chapitre 6, verset 16, nous allons le relire, point important, parce qu'on voit que l'opprobre n'est pas lié, comme on pourrait le penser, à la présence de la muraille, mais à son absence, au fait qu'elle soit détruite. Puisque, dès que la muraille est rebâtie, verset 16 du chapitre 6, il arriva que lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui nous environnaient craignirent et furent abaissées à leurs propres yeux. Elles reconnurent que cette œuvre avait été faite de par notre Dieu. Verset 15 dit donc que la muraille fut achevée le 25e jour. Et ça inspire de la crainte aux ennemis. Et non, elle n'est pas une cause d'opprobre. Donc, pas à craindre que la séparation attire sur nous de l'opprobre, mais il y en a dans un certain sens. Il y en a en particulier d'autres milieux chrétiens. C'est une forme d'opprobre aussi. Mais ici, nous voyons bien le « afin ». Nous comprenons le « afin que » avec ce verset 16 du chapitre 6. On a parlé de l'opprobre. Et ensuite, au verset 18, « Je leur racontais comment la main de mon Dieu avait été bonne sur moi. » On insistait sur le fait qu'il y avait là une confirmation que l'œuvre était de Dieu. Néhémie ne vient pas là simplement avec des intentions de construire, pour apporter de l'aide. Non, il y a là une démonstration que l'œuvre de Dieu, puisque la bonne main de Dieu a été sur lui. Et alors, le récit des circonstances est propre à encourager ses frères en disant, en effet, Dieu sera avec nous puisqu'il a été avec Néhémie et que visiblement, par les circonstances telles qu'elles se sont déroulées, il y a là son approbation. Et puis, nous avons alors belle expression, ils fortifièrent leurs mains pour bien faire. On nous a reporté au livre d'Agée, dans lequel nous avons ces expressions, soit fort, Joshua, soit fort, Zorobabel, et puis là, la construction qui se fait. Alors, les Juifs sont là stimulés. Levons-nous et bâtissons. Néhémie a dit, bâtissons la muraille de Jérusalem. Et l'écho qui est donné par ces Juifs, oui, levons-nous et bâtissons. Dieu sera avec nous. Il est dit, ils fortifièrent leurs mains pour bien faire. De rappeler qu'on pouvait, qu'il y avait aussi faire le mal et bien le faire, une expression d'un prophète. Alors les ennemis sont mentionnés au verset 19, et leur réaction, ils se moquèrent, ils méprisèrent, ou bien que c'est la réponse de Satan et de ceux qui l'emploient. Mépris, la moquerie, auquel nous sommes souvent très sensibles. Mais la réponse est claire, De la part de Néhémie, je répondis, le Dieu des cieux nous fera prospérer. Ce n'est comme, autrement dit, ce n'est pas notre œuvre, c'est la sienne. Rien à craindre du moment que c'est la sienne. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Nous n'avions rien dit, je crois, de la fin du verset 20e. Vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Bien intéressant cela, bien important. Nous souvenir qu'il n'y a pas de collaboration possible, pas de coopération possible avec les ennemis de Dieu sur aucun plan. Et la séparation est déjà manifestée là avant qu'elle le soit matériellement par la muraille. Ni part, ni droit, ni souvenir. C'est beau de penser que le croyant à ces trois choses. Il a une part. Dans Jean 13, le Seigneur dit à Pierre, si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. Le croyant a une part avec le Seigneur. Un droit. C'est pas le premier chapitre de l'évangile de Jean nous rappelle que nous avons le droit d'être appelés enfants de Dieu. C'est un droit. D'autres traductions ont mis le pouvoir de devenir. Ce qui affaiblit beaucoup la pensée, c'est un droit. Certains n'ont pas osé écrire droit, mais c'est un droit pour l'enfant de Dieu, tout comme le nom d'un enfant qui est écrit à l'état civil, il a le droit de porter le nom de sa famille. Et enfin, souvenir. Est-ce que nous n'avons pas un précieux souvenir, chers frères et sœurs? Celui que nous avons rappelé ce matin aussi, n'est-ce pas? Le souvenir de la mort de notre Seigneur. Nous avons une part, un droit, un souvenir, ce que le monde ne possède pas.
Au chapitre 8, verset 22, nous avions remarqué cet après-midi, en contraste avec ce qui est dit de Néhémie, que Esdras avait eu honte de demander au roi des forces et de la cavalerie pour nous aider en chemin contre l'ennemi. Et puis nous avions constaté que Néhémie, au verset 9 du chapitre 2, il est dit à la fin, « Le roi avait envoyé avec moi des chefs de l'armée et des cavaliers. » Mais nous voyons, c'est le roi qui envoie. Et parfois, on a comparé un peu la foi de d'Esdras et de Néhémie. Ce n'est pas naturellement notre rôle de comparer la foi des serviteurs. Mais je voulais souligner dans ces deux derniers versets, la foi d'un Néhémie. Nous voyons que cette remarque, qu'est-ce que vous faites, fin du verset 19, qu'est-ce que vous faites là? Voulez-vous vous révolter contre le roi? Et ce qui avait fait arrêter le travail en Esdras en relation avec la construction du temple. Il est vrai que le prophète Agée nous avait appris que, en fait, c'était parce que les fils d'Israël s'occupaient plutôt de leur maison. Mais en Esdras 4, nous voyons que Zorobabel leur dit au verset 3, « Vous n'avez pas affaire avec nous pour bâtir une maison à notre Dieu, mais nous seuls nous bâtirons à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a commandé le roi Cyrus, roi de Perse. » Et puis verset 4, « Alors le peuple du pays rendit lâche les mains du peuple de Juda, ils leur firent peur de bâtir, et ils souloyèrent contre eux des conseillers pour faire échouer leur plan durant tous les jours de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. » Et nous voyons que dans ce livre d'Esdras, il y a eu donc d'abord Zorobabel, de la race royale, qui était remonté. Nous avons ensuite au chapitre 5 des prophètes, Agée et Zacharie, qui sont venus pour encourager le peuple avec le beau résultat auquel nous avons fait allusion. Et ensuite au chapitre 7, il y a eu Esdras qui est monté. Et ici dans notre livre, nous voyons Néhémie seul. Seul, nous avons vu après quels exercices envoyés par Dieu, qui avait à cœur le bien du peuple et qui, fortifié par Dieu, mais par cette foi de Néhémie qui brille ici, résiste à toutes les attaques des ennemis que nous avons dans les chapitres suivants. Et c'est beau de voir effectivement sa fermeté. Les ennemis font toujours valoir, en relation avec la construction de la muraille, que les Juifs veulent reconstituer une autorité civile, mais effectivement le roi l'avait permis. Mais lui peut dire, le Dieu des cieux, lui nous fera prospérer. Et nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Et alors effectivement, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. La part est en relation avec l'héritage et effectivement, ceux qui n'étaient pas du peuple n'avaient aucune part. Le droit, c'est ce qui est juste et c'est aussi une chose sérieuse. Il est dit en Ésaïe, toutes nos justices sont des vêtements souillés. Eh bien, pour quelqu'un qui n'est pas du peuple, pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, toute bonne œuvre même qu'il pourrait faire, croire faire, n'est pas considérée telle, c'est une œuvre morte. Nous savons que cela dit ailleurs. Ils n'ont pas de droit, ils n'ont pas de choses justes qu'ils puissent accomplir en relation avec la construction. Et puis, ils n'ont pas non plus de souvenir. Une fois que l'œuvre sera achevée, eh bien, ils n'auront pas le souvenir en relation avec cette œuvre. Et ce qu'il y a de beau alors, c'est que nous pouvons considérer aussi quelle était notre position. Nous, comme gentils, comme n'étant pas partie du peuple, en Éphésiens 2, quand il est dit que « Souvenez-vous, Éphésiens 2, verset 11, que vous, autrefois les nations dans la chair, qui étiez appelé incirconcision par ce qui est appelé la circoncision faite de main dans la chair, vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et étant sans Dieu dans le monde. » Et nous connaissons la suite de ce chapitre. Ce qui remplace cet état, ce n'est pas que nous soyons introduits dans le peuple d'Israël, mais c'est que nous recevons cette nouvelle bourgeoisie qui est dans les cieux.
Avant de considérer plus en détail cette œuvre de la réédification de la muraille, il est peut-être utile, pour éviter toute confusion, de revenir à ce qui nous a été dit cet après-midi au terme de la réunion, à savoir que nous n'avons pas dans ce travail la figure de l'édification ou de la réalisation de l'assemblée ou du peuple de Dieu par l'adjonction de pierres vivantes unies les unes aux autres pour constituer un ensemble. Ce n'est pas du tout l'enseignement que nous avons en rapport avec l'édification de la muraille. Il ne s'agit pas de constituer un corps, un ensemble, un édifice, expression du peuple de Dieu, par l'apport d'éléments de la carrière de ce monde qui sont amenés comme devant constituer par la grâce des pierres de cet édifice de la grâce. Donc ce n'est pas la transcription en figure d'une activité dite évangélique, si précieuse qu'elle soit à sa place, pour mettre des pierres ensemble et les ajouter en vue de l'édification d'un ensemble. Ce n'est pas cela. L'édification ou la réédification de la muraille nous présente un enseignement bien précis ayant pour objet la réalisation pratique d'une séparation du peuple de Dieu d'avec ce qui n'est pas selon Dieu. Et la séparation est un critère fondamental déterminant la réalisation d'un témoignage. Donc il faut être bien au clair à ce sujet. Lorsqu'il est dit « Levons-nous et bâtissons », ça n'a rien de commun avec l'épître de Pierre, nous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, sommes édifiés. Ce n'est pas du tout ce langage. Ainsi donc, la séparation conditionne le témoignage. C'est une vérité fondamentale qui nous est enseignée par la parole, même si maintenant elle perd peut-être de valeur dans les cœurs. Il n'y a pas de communion entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Il n'y a pas de communion entre ce qui est saint et ce qui est profane. Nous connaissons ces enseignements de 2 Corinthiens 6. Et le relâchement qui était intervenu dans le peuple terrestre de Dieu dans ces temps-là, pendant ce temps intercalaire entre la venue d'Esdras et celle d'Ennemi, avait précisément produit qu'on avait perdu de caractère et perdu la notion que le peuple de Dieu était, comme le dit Balaam dans son discours, un peuple qui habitera seul, un peuple séparé. Il perd donc ce caractère, et l'absence de murailles et l'absence de portes consumées par le feu permet donc à des éléments de l'intérieur de sortir et à ceux de l'extérieur d'entrer. Il est peut-être utile de le préciser pour que nous n'ayons pas à l'égard de la réédification de la muraille une appréciation, lui donnions un sens qu'elle n'a pas.
J'aimerais peut-être ajouter encore, si
La parole de Dieu nous enseigne de façon multiple, de façon diverse. Sur un plan très général, nous pouvons admirer la foi de Néhémie, son obéissance, sa crainte de Dieu, et en tirer des applications tout à fait générales et universelles concernant la vie de piété en n'importe quel temps que ce soit. Mais d'une façon plus particulière, si nous considérons le contexte historique de ce livre de Néhémie, alors nous voyons qu'il y a une analogie entre cette situation et la situation que nous vivons maintenant dans la chrétienté. Et c'est pour cette raison que ces passages ont un prix particulier pour nous, parce que le comportement de ce petit noyau fidèle, de ce résidu, objet de la grâce de Dieu, malgré son extrême faiblesse, nous fournit des principes selon Dieu quant au comportement qu'il attend de nous dans les temps qui correspondent à ceux de la deuxième épître à Timothée. Relativement à cette muraille et à cette séparation dont on a parlé, j'aimerais rappeler quand même qui étaient ces gens auxquels on a affaire et dont il faut se protéger. Eh bien, il s'agit de gens qui, dans Esdras, pouvaient dire au chapitre 4, « Nous bâtirons avec vous », verset 2, il s'agissait là du temple, non pas de la muraille, « Nous bâtirons avec vous, car nous recherchons votre Dieu comme vous, et nous lui offrons des sacrifices, depuis les jours des Aradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Le roi d'Assyrie avait amené des populations de très loin, et les avait amenées sur la terre d'Israël, tandis qu'il avait transporté des Israélites au loin. Et si on lit le chapitre 17 de Deux Rois, on est très très bien orienté quant à ce qui s'est passé alors. J'aimerais simplement rappeler un verset de ce chapitre 2 Rois 17, le verset 33. Il est dit ceci: ils craignaient l'Éternel. Il s'agit de ces tribus païennes qui avaient été amenées là par le roi d'Assyrie. Ils craignaient l'Éternel et ils servaient leur Dieu selon la coutume des nations d'où ils avaient été transportés. Il y avait une espèce de culte confus, mélange de certains éléments du culte du vrai Dieu et de l'idolâtrie, du paganisme, de sorte que le Seigneur a pu dire à la Samaritaine, « Vous adorez, vous ne savez quoi ?» Et ceci est une image saisissante de la chrétienté actuelle, dans laquelle il y a aussi un mélange de vérité chrétienne et de ce que l'homme y a ajouté et a institué. Et c'est pourquoi la séparation et les distances qui sont prises ici par ceux qui désirent être fidèles, sont conduits par Dieu à être fidèles, c'est pourquoi ça a un prix particulier pour nous. Parce que nous sommes dans une situation semblable. Nous avons la responsabilité de suivre le même chemin que ce petit résidu face à une chrétienté au milieu de laquelle il y a la confusion. D'où le sens très profond, très important pour nous de cette muraille.
Une pensée que j'ai lue disait ceci ici. Les deux choses principales pour tout enfant de Dieu, c'est la séparation et le rassemblement autour d'un seul centre. Donc la séparation, comme on vient de l'entendre, de toute organisation mélangée et le seul rassemblement autour d'un seul centre, qui est Christ.
Peut-être faut-il préciser que ce sentiment profond qui anime un cœur fidèle, désireux d'être un témoin personnellement et de réaliser avec d'autres fidèles un témoignage dans ce monde collectif, ce sentiment-là ne doit en aucun cas être associé à un sentiment de supériorité ou un sentiment de condamnation à l'égard d'autres enfants de Dieu qui n'ont pas saisi de telles vérités. Il faut y prendre garde, car cela peut conduire à l'orgueil spirituel qui n'est pas le moindre, et au sectarisme. Prenons garde. Le Seigneur nous enseigne à cet égard par une scène très courte, très brève, mais significative à la fin de l'évangile selon Jean, lorsque Pierre, dans sa promptitude, s'occupe souvent des autres plus que de lui-même. Et voyant Jean, il demande « Celui-ci, qu'en adviendra-t-il de lui ?» Quelle est la réponse du Seigneur ?« Toi, suis-moi. » Et ceci doit occuper nos cœurs. Le Seigneur nous demande de le suivre. Il nous demande d'être humblement fidèles. Et sans aucun droit de jugement, de supériorité, de condamnation, à l'égard de croyants qui n'ont pas perçu les mêmes enseignements, qui n'ont peut-être pas été enseignés, eh bien, nous devons avoir cet esprit de grâce afin que le témoignage que nous sommes appelés à rendre parle à leur cœur et soit véritablement utile, leur soit utile. Mais ceci ne nous conduit pas à une association, à être ensemble, s'il n'y a pas la même perception, la même compréhension quant au droit du Seigneur sur nous, ce qu'il attend de nous. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord quant aux pensées de Dieu? Et le premier droit revient au Seigneur. Il nous demande d'être fidèles. Et cette fidélité qui octroie aux rachetés individuellement et collectivement un caractère de témoin ou de témoignage est conditionné par la séparation. C'est un terme que nous n'aimons plus. On n'aime pas entendre parler de séparation actuellement. Mais la pensée de Dieu n'a pas varié et remarquons que c'est le premier verbe actif que mentionne l'Écriture. En création déjà, Dieu sépare. Il sépare les choses qui ne vont pas ensemble. Et la séparation s'impose à l'âme fidèle. Lot et Abraham étaient deux croyants, ils se sont séparés, et la grâce de Dieu fera d'Abraham un témoin, ce que n'a pas été Lot, et il lui révèle ses pensées après qu'ils se furent séparés l'un de l'autre. Mais veillons à l'esprit qui anime et qui accompagne un réel désir de séparation, de sanctification pour Christ.
La séparation n'est pas un objet en soi. Nous suivons très volontiers la remarque de notre cher frère M. Gagnebin sur les deux principes, séparation et puis réunion autour du Seigneur. Mais peut-être cela pourrait-il être inversé, réalisant d'abord l'attraction de la personne. C'est dans la mesure où le Seigneur est vraiment un objet précieux pour le cœur, où il nous attire à lui, où ses intérêts nous sont chers, où nous désirons suivre sa parole, parce que nous l'aimons. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Quand nous avons ces versets dans le chapitre 14 de Jean, eh bien, dans cette mesure-là, la séparation viendra d'elle-même. Quelle part commune avec ceux qui sont qui n'ont pas les mêmes intérêts, les mêmes affections. Elle ne coûtera pas. Bien sûr, elle coûte dans la mesure où nous rencontrons de chers enfants de Dieu avec lesquels nous ne pouvons pas marcher. Mais si cette séparation est réalisée simplement par par un commandement, par une obligation, par le fait que, voilà, on a toujours été marché ainsi, alors elle n'a pas de valeur, elle ne nourrit pas l'âme. La séparation en elle-même est une nécessité douloureuse, mais qui n'est pas un objet en lui-même. C'est Christ qui est l'objet du cœur chrétien. Et c'est parce que ces fidèles aiment Jérusalem. Ce sont ceux dont il est question dans le psaume 122. Ceux qui t'aiment prospéreront. Alors c'est parce qu'ils aiment Jérusalem. Ils veulent la préserver de toute influence mauvaise pour que le temple puisse être fréquenté, pour que le culte puisse y être célébré, pour que leur Dieu puisse y rétablir sa présence et sa gloire. Voilà ce qui les occupe. Alors il faut bien établir la muraille et veiller à ce que rien ne puisse y pénétrer dans cette enceinte sacrée où l'on jouit de la présence de Dieu.
Historiquement, les choses se sont passées lors du réveil du siècle dernier selon l'ordre qui est donné en 2 Timothée 2. Il y a eu des croyants qui, au sein de la grande maison, ont constaté l'iniquité. Et cela les a extrêmement affligés. Donc ils ont obéi à l'injonction de ces versets que nous citons souvent à juste titre, qu'ils se retirent de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. C'est une injonction divine qui devrait exercer tout son impact sur chacun de nos cœurs, car la séparation n'a de raison d'être que si elle est faite par amour pour le Seigneur, par amour pour lui. Sinon, elle n'a pas de valeur et elle fera de nous des pharisiens. Et il est ajouté que dans cette grande maison, il y a des vases d'or et d'argent, donc des vases précieux, et des vases de bois et de terre, les uns à honneur, les autres à déshonneur. Alors, que va faire le fidèle au sein d'un tel mélange, d'une telle confusion? Si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Deuxième exhortation impérative. Et alors ensuite, le croyant peut supposer qu'il va avoir un chemin où il sera seul, mais la parole va l'encourager. S'il est fidèle à ses premières injonctions, il est ajouté, poursuit la justice, la foi, l'amour, avec qui? Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et il va les trouver, ces cœurs purs sur le terrain défini clairement dans l'Écriture, le terrain de l'unité du corps de Christ. Et alors Matthieu 18:20 va prendre tout son vrai relief. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et ces croyants, à travers beaucoup de souffrances, beaucoup d'humiliations, devant tous les dégâts commis par la volonté propre de l'homme, ont fait un coin propre au sein de la chrétienté. Et ils ont trouvé, bonheur suprême, la présence du Seigneur. Le nombre importe peu, ce qui compte, c'est l'obéissance à la parole, c'est l'injonction du Seigneur, et ces deux ou trois ont découvert la présence du Seigneur, toujours fidèle à sa promesse. Dans le psaume 122, nous avons aussi un enseignement sur ces sujets extrêmement importants. Nous voyons « Que la paix soit dans tes murs », verset 7, « La prospérité dans tes palais ». Voilà la cité de Dieu. Elle ne peut être préservée dans la jouissance de cette paix qui constitue l'élément fondamental de la jouissance de l'âme en communion avec Dieu. C'est le sentiment le plus profond que nous puissions goûter. C'est par les murs qui entourent cette sainte cité que la paix peut être véritablement goûtée, la prospérité dans tes palais. C'est à partir de cette sainte séparation pour Dieu que nous allons goûter véritablement les vrais biens, les trésors du sanctuaire, car l'habitation de Dieu est dans cette cité. que la paix soit dans tes murs, la prospérité dans tes palais, à cause de mes frères et de mes compagnons, je dirai que la paix soit en toi, qui sont les frères. Bon. Ce sont tous les vrais enfants de Dieu. Eh bien, à cause d'eux, nous devons souhaiter que l'Assemblée soit un lieu où rayonne la paix, l'amour, la lumière, toutes les grâces que Christ nous accorde quand sa présence est réalisée. Et alors, sans beaucoup d'efforts, d'autres âmes seront ajoutées qui cherchent le vrai terrain du rassemblement selon l'Écriture parce que nous aurons été fidèles à cette vérité, ayant à cœur de jouir de la paix et de toutes les grâces que nous goûtons lorsque le Seigneur est au milieu de nous. Nous chantons quelquefois à juste titre que c'est le bonheur suprême. Lorsque le Seigneur est au milieu de nous, cela signifie que nous réalisons les conditions morales pour cela. Et les frères qui nous entourent, si nous sommes fidèles à cette vérité reçue par grâce, révélée par le Saint-Esprit dans toute l'Écriture, il y aura d'autres armes qui seront ajoutées. Il y a tout le témoignage que nous rendons à l'extérieur, parce que nous pouvons sortir par les portes de la cité et rendre témoignage vis-à-vis du monde. Et il y a des âmes précieuses qui peuvent entrer par ces portes et participer aux bénédictions de l'Assemblée de Dieu lorsque elles ont été ajoutées par le Seigneur, moyennant la foi en son œuvre. Et puis, il y a aussi nos compagnons, ceux qui mangent le pain avec nous à la table du Seigneur, ceux qui ont véritablement communion avec nous, à la table du Seigneur. Eh bien, là encore, la chair est toujours en nous, ne l'oublions jamais. Le monde autour de nous, si nous veillons à maintenir les droits du Seigneur au milieu de son peuple, eh bien, nous jouirons aussi de la paix. Il y a là un enseignement du plus haut prix quant à tout ce qui concerne le témoignage du Seigneur. Et aujourd'hui, nous devons constater que de plus en plus, l'esprit du témoignage se perd parmi nous. C'est-à-dire ce que le Seigneur avait confié à ceux dont nous sommes, que nous le voulions ou non, les héritiers. Alors, cette muraille va se construire. C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Nous avons quelquefois de bons désirs que nous ne réalisons pas toujours. Nous l'avons constaté dans nos vies personnelles. Mais ici, quand c'est un mouvement qui est produit dans le cœur par Dieu, agissant sur ses âmes, sur ses hommes qui appartiennent au peuple, il y a là une sainte décision qui est extrêmement belle. Et le vouloir et le faire sont opérés par Dieu lui-même. Et nous assistons, pour ainsi dire, dans ce magnifique tableau, à quelque chose qui évoque pour nous ce que sera le tribunal de Christ, ou aussi à Romains 16, où chaque ouvrier du Seigneur, chaque servante du Seigneur est mentionné avec toutes les nuances que l'Esprit de Dieu peut seul apprécier. Ce qui est fait par amour pour le Seigneur, ces bonnes œuvres qui sont le fruit de l'amour et de la séparation pour Dieu, eh bien, seront manifestées un jour. Et quelquefois, ce qui a le moins d'apparence, mais qui est accompli dans l'approbation du Maître, sera manifesté en gloire pour la satisfaction de son cœur. Eh bien, là, nous avons des enseignements de toute première importance quant à cette activité très diversifiée, mais accomplie dans l'unité de ce peuple qui appartient à son Dieu. Tout est de Dieu et les choses s'accomplissent spontanément. Il y a, pour ainsi dire, une sainte collaboration que traduit cette expression à côté de lui. Ils sont des compagnons qui travaillent pour le même maître. Les travaux sont divers. L'un a une porte, l'autre a une portion de la muraille. Un autre travaille devant sa maison, comprenant tout l'intérêt de lier la prospérité de sa maison à la sécurité de l'ensemble et à la bénédiction que Dieu va réserver à son peuple lorsqu'il est séparé de lui, et ainsi nous voyons toutes ces activités qui s'accomplissent sous le regard de Dieu. Quant à ceux qui travaillent les uns après les autres, cette expression peut faire allusion au fait qu'il y a une continuité dans l'œuvre de Dieu. Chacun, chaque génération apporte quelque chose lorsqu'elle est employée pour la gloire de Dieu. Et Dieu se souvient de ce qui est fait pour lui. Il enregistre les actes d'amour des saints. Rien n'est oublié, tout est consigné dans le livre du souvenir pour sa propre gloire.
À cet égard, lorsque nous entendons de telles vérités, savons-nous l'apprécier, l'inestimable privilège d'être un instrument, de se placer comme instrument entre les mains de Dieu pour être employé, non pas par nous-mêmes, mais par lui, nous mettant à sa disposition pour qu'il, dans sa souveraine grâce, il daigne employer n'importe qui a à cœur ses intérêts pour la gloire du Seigneur avant tout, pour l'édification du corps tout entier et aussi pour cette rémunération lorsque, au tribunal de Christ, tout sera manifesté dans nos vies. C'est pourquoi, si nous ne rendons pas compte de la valeur de nos jours qui nous sont accordés sur la terre, ils ont une valeur incalculable pour la gloire de Dieu et pour notre bénédiction éternelle. Et à cet égard, nous serions assez appelés et faire appel à la chère jeunesse qui a encore toutes ses facultés et qu'ils puissent déjà, dès leur jeune âge, se nourrir de la parole, non pour pouvoir enseigner les autres, mais pour pouvoir être utile dans le corps, là où le Seigneur nous place. Et non seulement les frères, mais les sœurs, parce que les services sont divers. Dieu peut se servir de qui il veut, mais il veut des cœurs qui soient préparés et préparés par lui seul.
Le Seigneur apprécie, il lit dans les cœurs, nous l'avons entendu. J'aimerais simplement rappeler le nom de deux hommes dont il est question en Nombre 32. Il est dit d'eux, de Caleb et de Josué, et cela au verset 12. Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, car ils ont pleinement suivi l'Éternel. Je n'ai jamais vu dans ma Bible qu'il soit question d'autres personnes avec cet adverbe « pleinement ». Ils ont pleinement suivi l'Éternel. Eh bien, c'est un passage qui me fait envie, qui doit nous faire envie, dans le sens de ce que nos frères viennent de souligner. On a dit un mot de Romains 16, et vous savez bien que là, 29 personnes sont nommées. Il est même question de deux sœurs qui ont beaucoup travaillé. Marie a beaucoup travaillé pour vous. Persis, la bien-aimée, a beaucoup travaillé dans le Seigneur. Je rappelle simplement cela aussi pour encourager nos sœurs.
Je n'aimerais pas interrompre ce qu'on est en train de commencer avec le chapitre 3, mais peut-être j'ai quand même à cœur de continuer une pensée dans le sens de ce que notre frère Combes et notre frère Terrade, avant d'aborder le chapitre 3, ont mentionné, c'est-à-dire l'importance pour nous, et nous ne pouvons le réaliser que par grâce, de l'attitude à l'égard de la muraille. Parce que la muraille peut devenir un danger. On a mentionné le pharisaïsme, le sectarisme. Et nous savons, nous avons parlé beaucoup de Esdras et de Néhémie. Néhémie est le livre qui historiquement va le plus loin dans l'Ancien Testament. Mais nous savons qu'il y a un livre qui va plus loin. Un livre prophétique, le livre du prophète Malachie. Et ce livre nous révèle l'état du peuple derrière sa muraille. Et nous pouvons dire que c'est un avertissement. Ce livre est un livre pesant. L'oracle de la parole de l'Éternel, je crois qu'il est dit, l'oracle de la parole de l'Éternel, littéralement c'est le fardeau de la parole de l'Éternel. Et ce n'est pas pour mettre un fardeau sur nous, mais ce livre est donné quand même pour nous avertir, et nous voyons, nous avons relevé que la première chose qui a été redécouverte aussi historiquement, c'est l'autel sur son emplacement. Nous avons vu la table du Seigneur. Et la seconde chose en Néhémie, c'est l'administration en relation avec cela. Et en Malachie, on voit le déclin en relation avec ces deux choses. J'aimerais juste lire en Malachie 1, verset 7. Il est dit, « En quoi t'avons-nous profané ? En ce que vous dites, la table de l'Éternel est méprisable. » Naturellement, sans doute, il ne le disait pas sous cette forme. Mais nous voyons dans ce qui suit, si vous présentez une bête aveugle, etc. Cela veut dire que la table du Seigneur n'avait plus la première place, n'avait plus la priorité. Les sacrifices étaient pour autre chose. Et puis, en relation avec la muraille, nous voyons à la fin du chapitre 3, verset 13, « Vos paroles ont été fortes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ? Vous dites, c'est en vain qu'on sert Dieu, et quel profit y a-t-il à ce que nous fassions l'acquis de la charge qu'il nous a confiée, et que nous marchions dans le deuil devant l'Éternel des armées ? Et maintenant, nous tenons pour heureux les orgueilleux, ceux-mêmes qui pratiquent la méchanceté sont établis. » Voilà comment le peuple, c'est Dieu qui donne les paroles du peuple, comment le peuple parlait à l'égard des orgueilleux. Eh bien, nous voyons quel avertissement ce livre prophétique donne en relation avec les deux choses qui sont mises en évidence en Esdras et en Néhémie, la table du Seigneur et la muraille.
Du premier ouvrier mentionné dans ce chapitre est de nature à nous retenir. Il comporte un enseignement particulièrement solennel, sérieux. Eliashib, un homme en vue qui a des fonctions élevées, le grand sacrificateur, avec ses frères et les sacrificateurs, les premiers qui œuvrent pour la réédification de cette muraille, qui démontre donc apparemment un zèle particulier. Ils sont les premiers mentionnés. Et ils édifient et bâtissent la porte des brebis. Ils sont les seuls, ou c'est la seule porte de laquelle il nous est dit qu'ils la sanctifièrent. Ils accomplissent donc un travail accompagné d'une manifestation de solennité qui ne manque pas sans doute de frapper l'entourage. Ils bâtissent. Mais c'est aussi la seule porte de laquelle il n'est pas fait mention des verrous et des barres. Apparemment, cela peut paraître sans grande importance. On a même donné une interprétation combien erronée, à savoir que la porte des brebis est toujours ouverte. Elle ne se ferme pas, donc elle n'a pas de verrous et de barres. Mais il faut l'ensemble du livre pour comprendre quelle était l'intention cachée d'Eliashib. Si nous venons au chapitre 13, il nous est dit au verset 3, verset 3 du chapitre 13, « Il arriva que lorsqu'ils eurent entendu la loi, ils séparèrent d'Israël tout le peuple mélangé. Et avant cela, Eliashib, le sacrificateur établi sur les chambres de la maison de notre Dieu, allié de Tobija, lui avait préparé une grande chambre. » Verset 7. « Et je vins à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'Eliashib avait fait en faveur de Tobija en lui préparant une chambre dans les parvis de la maison de Dieu. Et je trouvais cela fort mauvais et je jetai dehors hors de la chambre tous les effets de la maison de Tobija. Quel était donc le but d'Eliashib? Nous ne mettons pas en doute son zèle, les efforts fournis, sa spontanéité à œuvrer. Mais il n'est pas animé par ce sentiment précisément que la muraille et les portes sont l'expression d'une séparation, c'est-à-dire d'une étanchéité par rapport au mal. Et il veut bien faire une porte pour autant qu'elle puisse librement s'ouvrir. On n'y met ni les verrous, ni les barres. Et l'intention inavouée, cachée, qui apparut peut-être inaperçue de la part de beaucoup d'autres, c'était de pouvoir laisser rentrer un ennemi du peuple et lui préparer même, ce qui nous montre que c'était une intention, quelque chose de prémédité, de bien préparé, de l'introduire dans la maison même de l'Éternel, ce Tobija opposé au peuple de Dieu. Et pourtant, il sanctifie la porte, il œuvre le premier qui aurait pu mettre en doute son zèle. C'est le premier qui part en chantier. Ce qui nous montre aussi qu'il ne suffit pas d'être actif, il ne suffit pas d'être zélé, ce qui compte pour Dieu, c'est d'être obéissant. Lors de la construction du tabernacle, il y a ceux qui n'ont rien fait, il y a ceux qui ont donné leur or pour le veau d'or, il y a ceux qui ont œuvré. Mais ceux qui ont œuvré et qui ont travaillé de telle une manière profitable et approuvée de Dieu, c'est ceux qui ont fait comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et pas moins de 18 fois, à la fin de l'Exode, nous trouvons cette déclaration que les choses ont été faites comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et c'est en raison de cette obéissance que la nuée a rempli le tabernacle et que la présence divine est réalisée. La réalisation de la maison de Dieu, de la présence de Dieu, des caractères d'un témoignage n'est pas laissée à la fantaisie et à l'initiative de l'homme, voire du croyant. Mais elle est réservée à la fidélité. Et Tobija n'avait pas la vérité dans l'homme intérieur. Eliashib avait un but, c'était de laisser entrer le mal dans le sein du peuple, dans la maison même de Dieu.
J'aimerais ajouter, nous voyons en effet qu'Eliashib n'a pas mis les verrous et les barres. Lisons dans le même chapitre au verset 21. Et après lui, Méremoth, fils d'Uri, fils d'Akots, répara une autre portion depuis l'entrée de la maison d'Eliashib jusqu'au bout de la maison d'Eliashib. Donc, il avait omis de réparer devant sa maison, depuis le bout de sa maison à l'autre bout. Et non seulement il avait omis de réparer sa maison, en pensant aux portes d'une maison, on voit le côté matériel. Mais il l'avait omis de mettre les verrous à la porte de son propre cœur. Il faut mettre d'abord le verrou aux portes de notre propre cœur pour éviter que le mal puisse entrer. Donc il avait omis de faire cela depuis le bout de sa maison jusqu'à l'autre bout. Il n'avait pas mis les verrous. Mais prenons garde, le mal provient premièrement de notre propre cœur.
Il y a encore un autre point, la charge d'Eliashib que signale le chapitre 13, c'est qu'il y avait une alliance dans sa famille avec l'autre ennemi du peuple de Dieu. Il nous est dit au verset 28 que l'un des fils de Jéhoiada, fils d'Eliashib, le grand sacrificateur était gendre de Sambala, le Horonite, et je le chassai d'auprès de moi. Horonaïm était une ville de Moab, donc c'était un Moabite, dont Deutéronome 23 déclare que même la dixième génération ne pouvait entrer dans la congrégation de l'Éternel. Et bien des relâchements au sein du peuple de Dieu, même au sein de ceux qui ont une responsabilité évidente dans les assemblées sont liées au fait qu'il y a des alliances secrètes et naturelles avec les ennemis du peuple de Dieu. Là aussi, la mise en garde est très sérieuse. Sans doute, il peut y avoir de nos enfants qui s'égarent dans le monde et qui contractent de ces alliances, mais ce qui est requis du chef de famille, c'est qu'il soit net par rapport à la position que prennent ses enfants, et que le témoignage soit clair, qu'il n'y ait pas de fléchissement moral. Sinon, nous voyons très directement un lien entre la maison du serviteur de Dieu et la prospérité du peuple de Dieu. Il y a la porte de la maison d'Eliashib, la muraille ne s'en est pas occupée devant sa propre porte, et quand il s'agit de la porte des brebis, eh bien, il n'a pas mis de verrou et de barre. Tout ceci se tient, moralement. Il est fidèle à lui-même, à ce qu'il a choisi, pour ainsi dire, et c'est extrêmement solennel. Nous avons besoin de toute la grâce de Dieu pour être fidèles dans nos maisons vis-à-vis des éléments mondains. Sans doute, il faut tout son secours pour observer une telle attitude de foi. Mais le Seigneur peut bénir cela et travailler en profondeur dans ceux qui se sont laissés entraîner par le courant très puissant de ce monde. Ce qui est requis du serviteur de Dieu, c'est qu'il soit fidèle à la vérité reçue. Et il en résulte du bien pour l'ensemble du peuple. Et il faut que ce soit des hommes qui fassent une deuxième portion devant la maison d'Eliashib. Depuis, il est bien dit, c'est bien précisé, depuis l'entrée de la maison d'Eliashib jusqu'au bout de la maison d'Eliashib. On croirait assister à une insistance de l'esprit pour souligner ce trait-là qui a toute son importance. Toutes les autres portes comporte des verrous et des barres. Toutes les autres portes, sans exception. Il n'y a que celle du chef religieux dont la responsabilité est évidente, qui n'avait pas ses verrous et ses barres. C'est extrêmement sérieux.
L'histoire du roi Josaphat est très instructive à cet égard. C'est aussi un personnage responsable de Juda, un roi pieux, et qui est tombé à cause de son alliance avec Akab, en mariant son fils Joram avec une fille d'Akab et de Jézabel qui n'était autre que la sinistre Athalie. Et cela a entraîné la ruine totale de sa famille puisque tous ses petits-fils ont été massacrés par leur propre grand-mère, à l'exception du petit roi Josias, nous connaissons l'histoire. Mais le roi Josaphat est là, ce roi pieux, il nous fait pitié, il est lié vraiment par cette alliance et nous savons à quelles conséquences elle a entraîné pour lui. C'est un point bien, bien sérieux à considérer que celui-là. Je proposerais qu'on s'arrête un instant pour chanter le cantique 53.
Au verset 4, Mérémoth et Meshulam sont deux hommes qui ont réparé deux portions. Nous le voyons plus loin dans le livre. Pour Mérémoth, nous l'avons au verset 21, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, et pour Meshulam, au verset 30. Après eux, fin du verset 30, Meshulam, fils de Berekia, répara vis-à-vis de sa demeure. Et c'est beau, il n'est pas toujours possible de suivre tous ces serviteurs, toutes ces personnes qui sont mentionnées, mais ces deux serviteurs, nous les retrouvons pour le premier en Esdras 8, au verset 33, où nous voyons que quand Esdras arrive à Jérusalem, et après ces 3 jours d'attente que nous avons vus, il dit le 4e jour, Esdras 8, 33, « L'argent et l'or et les ustensiles furent pesés dans la maison de notre Dieu, entre les mains de Mérémoth, fils d'Uri, le sacrificateur. » Nous voyons que c'était quelqu'un de fidèle en qui on pouvait avoir confiance, sans doute, puis c'est entre ses mains que tout est pesé. Et alors, ce qu'il y a de beau, c'est que pour Meshulam, ce qui est dit de lui au chapitre 6, verset 18, nous voyons que Jocanan, à la fin, il faut lire tout le verset, « Plusieurs en Juda avaient prêté serment à Tobija, car il était gendre de Shekania, fils d'Arak, et Jocanan, son fils, avait pris la fille de Meshulam, fils de Berekia. » Eh bien, nous voyons que ce Meshulam, qui avait une alliance mauvaise parmi ses descendants, nous le voyons réparer ici, au verset 4, et puis sa seconde portion, il est dit, au verset 30, il est dit, vis-à-vis de sa demeure. C'est beau de voir cela. Cet homme avait quand même à cœur de réparer vis-à-vis de sa demeure. Et il est mentionné qu'il a fait 2 portions.
Au verset 1, nous avons vu Eliashib, le grand sacrificateur, qui avec ses frères va tenir la porte des brebis. Si nous nous rapportons à la fin de notre Bible, nous avons des cartes où il nous est donné des indications sur cette cité de Jérusalem au temps de Néhémie. Cette porte des brebis avait un chemin qui sortait d'elle ou qui arrivait, qui allait vers Jéricho. Il est important de voir que Jéricho, considérez cette ville de Jéricho qui est dans l'écriture l'image de la malédiction. Là où l'homme conduit ses pas loin de Jérusalem vers Jéricho. Et cette porte des brebis, en effet, ayant ce chemin qui venait de Jéricho, nous trouvons dans le verset 2 cette précision. Et à côté d'eux, bâtir les hommes de Jéricho. À côté d'eux, mais dans la note en bas, il est dit à côté de lui. Et c'est le seul passage où il n'est pas nommé des noms. Il n'est pas donné des noms. Ce sont des hommes de Jéricho. Par contraste, donc, avec tous ces noms qui nous sont donnés, des différentes familles, différentes personnes, ce sont des hommes de Jéricho qui ont bâti à côté d'Eliashib déjà dès le commencement de cette reconstruction de la muraille de Jérusalem.
C'est significatif que ce soit la porte des brebis où ce mauvais berger qu'est Eliashib a fait une construction déficiente. Porte des brebis, cela qualifiait donc cet homme comme parmi les bergers d'Ézéchiel 34 qui ne veille pas à la sécurité des brebis, qui les met à la portée du loup, des voleurs, de ceux qui veulent s'emparer des brebis. Quand il s'agit de la porte des brebis, il y a lieu d'être spécialement sur ses gardes et d'être fidèle. Je fais penser aux surveillants dont parle Pierre, placés dans les assemblées pour veiller sur les âmes, pour prendre soin d'elles, pour empêcher que ne s'introduisent dans le rassemblement des doctrines mauvaises ou des manières de faire qui ne sont pas selon la parole. Il y a là des verrous et des barres sur lesquels nous devrions peut-être quelquefois veiller davantage.
On peut constater aussi que lorsque l'ennemi veut introduire le mal dans le peuple de Dieu, il ne se sert pas d'éléments qui n'ont pas d'influence. Il se sert du grand sacrificateur. L'ennemi sait très bien quels sont les instruments qui seront le plus opérants, qui auront le plus de crédibilité, qui auront le plus d'influence. Il se sert du grand sacrificateur qui est accompagné de ceux qui partagent ses pensées ou qui ne discernent pas le danger. Avec lui, il y a ses frères. Ceci nous montre aussi, par ailleurs, que la fonction élevée, car elle était fort élevée, celle d'Eliashib, ne constitue en aucun cas une sauvegarde. Et n'y a-t-il pas eu des frères qui ont eu des qualifications particulières, voire même une connaissance particulière de la parole, desquelles l'ennemi a su se servir en introduisant le doute, en tordant ou falsifiant la parole et par leurs moyens introduire la fausse doctrine. Ce sont des hommes qui ont des capacités, qui ont une influence, qui ont, dirons-nous, un rang dans le peuple. Il semble qu'ils appartiennent, sous un aspect qui n'est plus matériel comme ici lorsqu'il s'agit d'une muraille, mais à ceux desquels il nous est dit en Romains 16, ce chapitre qui était évoqué, au verset 18, « Ces sortes de gens ne servent pas notre Seigneur Christ, mais leur propre ventre, et par de douces paroles et un beau langage, ils séduisent les cœurs des simples. » Ce sont des gens doués, un beau langage qui plaît, mais il n'y a pas la vérité dans l'homme intérieur. L'ascendance n'est pas non plus une sauvegarde. Nous savons qu'Eliashib était le petit-fils de Jeshua. Ce n'est pas parce qu'on est le petit-fils d'un homme et d'un serviteur remarquable que nous sommes à l'abri d'un danger, même si on a reçu un enseignement de première valeur. Tout ce qui se rattache à la pratique quant à la vie chrétienne, à la fidélité, réclame une vigilance constante. Rien n'est acquis sur le plan pratique. S'il s'agit de notre position en Christ, de tout ce que nous a acquis l'œuvre de Christ et de ce que nous sommes en lui, cela est sûr. Mais quant à la réalisation pratique, la jouissance qui doit en découler, la bénédiction qui devrait en résulter pour l'entourage, et la fidélité dans le chemin, il n'y a ni la connaissance, ni l'âge, ni les expériences faites qui constituent une sauvegarde, mais seulement un noble désir d'obéissance. Et seule la crainte du Seigneur et la communion avec le Seigneur nous préserveront. On a cité maintes fois, nous le citons à nouveau, le cas de Salomon. Il n'y a pas d'homme qui a reçu une intelligence et une connaissance plus grande que Salomon en son temps. Il n'y a pas d'homme qui a été plus favorisé que Salomon. Y a-t-il un homme qui a eu plus à cœur la maison de Dieu que son père? Y a-t-il un homme qui a écrit plus que lui pour mettre en garde, notamment quant à la femme étrangère? Il est tombé au plus bas dans les fautes au sujet desquelles il a sérieusement et sévèrement mis en garde. Qui pourrait penser qu'il est plus sûr est plus sage que Salomon? Et de lui, il nous est dit, en contraste avec ceux qui ont pleinement suivi, il n'a pas pleinement suivi l'Éternel. Il avait pourtant bien commencé. Il avait tout pour bien faire, pour bien marcher. Il est sorti de la crainte de Dieu. Mais il ne faut pas chercher ailleurs les écarts, les chutes et les difficultés et la faiblesse du témoignage. C'est sortir de la crainte du Seigneur. Ce n'est pas la peur du Seigneur, mais c'est cette disposition d'un cœur qui lui est attaché et qui redoute tout ce qui est de nature à le déshonorer. Quelle est l'une des conditions ou quel est l'un des critères mentionnés en Actes 9, 31 en rapport avec la prospérité, la croissance des assemblées? Elle marchait dans la crainte du Seigneur.
Nous ne devons pas chercher ailleurs la raison, les mobiles pour lesquels il y a tant de défaillances dans nos vies et tant de faiblesses dans le témoignage collectif, qui est le résultat du témoignage individuel, et tant de brèches dans la muraille. Nous sommes distancés et avons perdu cette sensibilité que devrait imposer à nos affections la crainte du Seigneur. Et chez Eliashib, il n'y avait pas la crainte du Seigneur. Mais il est beau, on l'a cité, cet homme Méremoth, qui va construire une muraille devant la maison d'Eliashib. Il réalise combien la maison d'Eliashib est en danger. Et voilà un homme qui, dirons-nous, sans bruit, mais par égard pour cette maison d'Eliashib, conscient du danger, va en quelque sorte œuvrer pour la préserver, la mettre à l'abri.
J'ai relevé un mot d'un cher frère en regard de ce qui vient d'être dit. Les serviteurs de Dieu les plus éminents se sont davantage signalés par la profondeur de leur piété que par l'étendue de leur connaissance. C'est la fidélité et non la brillance qui fait le véritable homme de Dieu. Il y a dans cette muraille des portes, sauf erreur au nombre de 12. On peut relever que la sainte cité de l'Apocalypse 21 comporte aussi 12 portes. Alors ces portes qui sont mentionnées là, c'est un lieu, la porte, un lieu qui doit être spécialement protégé. On sort par la porte. On peut penser à cette curiosité, à ce désir d'élargir, de voir autre chose. Et ça peut être un danger pour certains, mais ce qui se fait ailleurs est bon aussi. Pourquoi ne pas s'en enquérir? Pourquoi ne pas voir? Aller voir un peu au dehors ce qui se passe, ça peut être un danger, peut-être pour certains, pour les plus jeunes. Par la porte aussi, il peut pénétrer, donc, les choses mauvaises, dans l'enceinte de la ville. Nous ne savons que trop. Aujourd'hui, même les ondes pénètrent dans les maisons. Et nous savons bien qu'elles n'ont pas besoin de plus de précision, mais tout ce qui peut pénétrer dans les maisons. Combien nous avons à être aussi sur nos gardes? En Deutéronome 6. Alors il s'agit, on peut dire, de la famille en Israël. Nous avons ce beau passage dans lequel les enseignements sont inculqués, les paroles sont inculquées à nos fils, verset 7. Tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras par le chemin, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Voilà, alors ça, c'est le contrepoison qui doit être là dans la maison du croyant. Et faire l'objet, la parole doit faire l'objet d'une conversation, elle doit régler la marche de tous, elle doit être ce qui gouverne la maison. Et puis alors, il est dit, verset 9, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Autrement dit, la parole doit être comme le filtre qui, à travers lequel nous faisons passer ce qui pénètre dans la maison. Est-ce que c'est selon la parole? Est-ce que c'est édifiant? Est-ce que ça apporte du bien dans ma maison? Sinon, je le laisse dehors. Et puis, la porte était encore un lieu où la justice était rendue. Nous voyons plusieurs fois la porte. Prenons en particulier le quatrième chapitre de Ruth. Nous voyons que la transaction concernant Ruth se passe dans la porte. Et cette porte, c'est donc un lieu où le sens spirituel doit être exercé. Alors on comprend bien que l'influence du monde doit spécialement être écartée de toutes les décisions, de tout ce qui concerne la justice rendue, l'administration de l'Assemblée, si nous voulons prendre une application pratique. devons veiller beaucoup aux portes. Et c'est pas pour rien que les portiers ont une telle place dans la liste des serviteurs, dans l'histoire de David, de Salomon, les premiers rois. Nous avons des paragraphes entiers qui sont consacrés aux portiers, dont les fils d'Obédédom, qui avait eu l'arche chez lui, ses fils deviennent portiers pour l'arche. C'est intéressant ce détail-là. Ça nous montre que quand on a joui à la maison de la présence du Seigneur, eh bien on se qualifie, on peut être appelé ensuite à un service dans l'assemblée, veiller aux portes. Puis nous savons que les Corites, les fils de Corée, étaient portiers, plus spécialement en relation avec le temple sans doute. Mais enfin, cette vigilance aux portes est capitale, et ce n'est pas pour rien que dans cette muraille, il y a tant de portes.
Il est dit d'Eliashib et de ses frères qu'ils sanctifièrent la porte des brebis. Qu'est-ce que cela veut dire? Je pose plutôt la question, mais est-ce que c'était quelque chose de réel? Ou est-ce que c'était une sorte de cérémonie, comme ils étaient sacrificateurs pour se donner de l'importance? Et cela parce que si nous lisons Agée au chapitre 2, nous voyons Agée pose la question, l'Éternel pose la question au verset 11, « Interroge les sacrificateurs sur la loi, disant, « Si un homme porte de la chair sainte dans le pan de sa robe et qu'il touche avec le pan de sa robe du pain, ou quelque mets, ou du vin, ou de l'huile, ou quoi que ce soit qu'on mange, ce qu'il a touché sera-t-il sanctifié ? Et les sacrificateurs répondirent et dirent non. Et nous voyons comment Néhémie, alors, à la fin de son livre, montre comment on peut sanctifier ou garder la porte. Au verset 22 du chapitre 13, il dit « Et je dis aux Lévites qu'ils eussent à se purifier et à venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. » Pour mettre à part le jour du sabbat, ce qui est le sens de sanctifier, il fallait garder les portes. Mais comment sanctifier la porte elle-même? Et ensuite, il est dit non pas qu'ils bâtirent, mais ils la sanctifièrent jusqu'à la tour de Méa, jusqu'à la tour de Hananel. Il n'est pas dit exactement ce qu'ils ont fait, mais il n'est pas dit qu'ils ont bâti ce bout-là. Il est simplement dit, et c'était sans doute un travail déjà important, qu'ils ont bâti la porte. On ne veut pas non plus rabaisser ce qu'ils ont fait. Mais il semble que dans ce mot « sanctifier », ils ont peut-être voulu se donner de l'importance. Et c'est aussi un avertissement. On a parlé de quelqu'un qui a un rang parmi le peuple de Dieu. Ils avaient un rang, ils étaient importants, ils étaient observés, on s'en rapportait à eux. Et peut-être que cela les a conduits, en raison de leur fonction, à faire un acte ou une cérémonie qui, au fond, ne correspondait pas à quelque chose.
Au verset 3, il est dit « Les fils de Sénaa bâtirent la porte des poissons. Ils en firent la charpenterie et en posèrent les battants, les verrous et les barres. » Certaines de ces portes nous parlent des droits de Dieu, comme aussi de la responsabilité de ceux qui sont aux portes concernant ces droits, mais aussi en même temps des caractères de ceux qui doivent franchir ces portes. La porte des poissons, comme nous avons vu tout à l'heure aussi pour l'autre porte, à la fin de la Bible, il y a un chemin qui aboutit. Il vient de Sichem. Cette porte des poissons, par son nom, nous parle du témoignage dans la marche. Pourquoi? Déjà, les poissons pour pouvoir être consommé en Israël, il fallait qu'il soit pur. Et les caractéristiques de ces poissons étaient qu'ils devaient avoir des nageoires et des écailles. Des nageoires pour pouvoir aller contre le courant, des écailles pour pouvoir être en même temps, tout en étant entouré dans son milieu, être séparé de ce milieu. Et cette porte vient de Sichem. Sichem, dans l'écriture, il y a plusieurs allusions.
Une d'entre elles, c'est que Jacob envoya ses fils à Sichem paître les troupeaux. C'est là qu'il devait aller Joseph les chercher. Nous savons par l'Écriture que Joseph ne les a pas trouvés à Sichem. Il les a trouvés à Dothan. Mais Sichem signifie épaule. C'est-à-dire que ceux qui sont là, dans cet endroit-là, à Sichem, sont comme portés par Dieu. S'ils restent là où Dieu les a placés, ils sont comme portés. Et dans leur marche pratique de tous les jours, dans les témoignages, qui est comme celui du poisson que nous venons de voir, il fallait qu'ils correspondent dans cette marche à ces caractères du vrai poisson, du poisson qui était pur selon Dieu, séparé du mal, allant contre ce mal. Donc, cette porte nous parle donc de ces témoignages pratiques qui devaient être publics en même temps, pour pouvoir y pénétrer dans cette porte, pour pouvoir y pénétrer par cette porte. C'était le droit de Dieu de l'exiger.
Nous avons une triste note dans le verset 5 à propos des Tekoïtes. Ils réparèrent sans doute à côté des hommes dont on a parlé tout à l'heure, mais il a dit les principaux d'entre eux ne plièrent pas leur cou au service de leur Seigneur. Voilà, les principaux pourtant, irresponsables, mais qui ne se soumettent pas à l'autorité du Seigneur. Alors, ils sont là, désignés dans l'Écriture. De même que la fidélité de Néhémie et d'autres est soulignée de personnes plus humbles, plus simples, mais voilà des principaux qui résistent. Dans le coup est roide, comme il est dit aussi dans la parole. Se plie pas, se soumettent pas. Comment peut-on servir sans se soumettre? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, dit le Seigneur. Me soumettre à son joug qui est léger, accepter, faire sa volonté, accomplir le service dans la dépendance, dans le sentiment de l'autorité du Seigneur.
Dans le verset 27, après lui, les Tekoïtes réparèrent une seconde portion. Voilà des hommes qui n'ont pas suivi des mauvais conducteurs.
Nous avons malgré tout un élément très positif à remarquer en rapport avec ce verset 5. C'est que c'est une véritable exception dans tout ce chapitre. Si les principaux des Tekoïtes n'ont pas plié leur cou au service de leur Seigneur, ce sont au fond les seuls dans tout ce chapitre dont il nous est dit quelque chose de semblable. Ce qui nous donne donc comme ensemble le tableau d'un peuple zélé et soumis au service de leur Seigneur.
On pourrait relever qu'il aurait été peut-être plus facile d'assurer une séparation parfaite en ne mettant pas de porte du tout, ou au moins en limitant le nombre de portes. Est-ce que là on n'aurait pas été protégé de toute pénétration? Un de nos frères a relevé que dans les textes originaux, quand il est question de séparation, l'accent est toujours mis sur le but, séparer pour le Seigneur. Et nous aurions peut-être tendance parfois à toujours attirer notre attention sur le séparer de. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de portes? Comment est-ce que cette ville ou ce résidu du peuple de Dieu se trouve peut-être un témoignage pour les peuples d'alentour s'il n'y avait pas de portes? Ou des portes qui ne s'ouvrent jamais, il n'y aurait pas de témoignage. Je crois que l'exercice que nous devons avoir dans notre séparation
pour le Seigneur, tout le sérieux qu'il y a, toute l'importance qu'il y a à nous laisser conduire dans toutes nos relations avec l'extérieur par l'Esprit de Dieu, c'est dans cet esprit de service, de témoignage, et qui suppose que les portes s'ouvrent.
Mais il nous est précisé quand elles pouvaient s'ouvrir. C'est Néhémie lui-même qui l'ordonne au chapitre 7. Je leur dis, verset 3, que les portes de Jérusalem ne devaient pas être ouvertes avant que le soleil ne fût chaud et qu'on devait fermer les battants des portes pendant qu'ils étaient là et mettre les barres et qu'on devait placer des gardes d'entre les habitants de Jérusalem, chacun à son poste et chacun devant sa maison. C'est à la faveur de la nuit que l'on pouvait entrer par la porte d'Éliashib en tant qu'ennemi du peuple de Dieu. Mais quand le soleil était chaud, il y avait suffisamment de gardiens pour veiller aux portes. Il en est ainsi dans l'assemblée aussi. Si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons introduire de purs professants, admettre de purs professants. Et cela est extrêmement sérieux parce que nous faisons du tort à leur âme, en ce sens que les accueillant comme s'ils étaient des enfants de Dieu, eh bien, nous déshonorons le nom du Seigneur, sans aucun doute. D'où l'extrême importance qu'il y ait, dans un témoignage constitué pour Dieu, des portiers qui veillent sans cesse pour que ne s'introduisent pas des éléments étrangers à la vie divine, tout en ayant la profession de christianisme dans le sein du peuple de Dieu. Les portes sont ouvertes quand le soleil est chaud. Et un frère disait à propos d'une admission délicate, frère d'âge et d'expérience, il nous semble que le soleil n'est pas encore chaud. Et on peut constater combien de progrès une âme peut faire s'il y a une attente positive des frères en vue du bien de cette âme. Elle peut saisir, à travers l'exercice des frères en particulier qui ont une responsabilité d'instruire une demande, elle peut saisir le sérieux d'entrer dans le témoignage du Seigneur. Si elle a la vie de Dieu, elle appartient au corps de Christ. Mais entrer dans le témoignage, c'est autre chose. Il faut que l'âme ait véritablement la vie et possède le Saint-Esprit. Et les frères comme les sœurs sont invités à un exercice. Pas seulement les frères. Les frères ont la responsabilité d'instruire une demande, de la placer sur le cœur de l'assemblée lorsqu'ils sont libres de le faire. Et si un frère sérieux a une réserve pour laquelle il ne pourrait pas toujours donner les raisons, nous devons respecter cet exercice et ne pas forcer les choses. Sinon, nous risquons de faire un mauvais travail. Et il est laissé aussi un temps d'attente pour les sœurs qui ont leurs responsabilités propres, notamment à l'égard des sœurs elles-mêmes, de celles qui demandent à être admises à la table du Seigneur. Nous devons veiller à ce que toute décision soit prise par l'Assemblée et non pas par les frères. Ils n'ont pas pouvoir de décision. C'est l'Assemblée, selon Matthieu 18, qui prend une décision au nom du Seigneur. Et ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel, c'est extrêmement solennel. De même, ce qui est délié sur la terre est délié dans le ciel. Donc nous voyons que tout croyant authentique a sa place dans la cité. Les portes sont ouvertes et quand le soleil est chaud, il nous appartient de le reconnaître et d'accueillir de chers frères et de chères sœurs en Christ avec un cœur sensible et reconnaissant envers le Seigneur qui poursuit son œuvre, malgré bien des infidélités au milieu de son peuple. Le Seigneur ajoute toujours, c'est lui qui ajoute les âmes à l'Assemblée. Et c'est ainsi qu'il peut y avoir une continuité pour le témoignage qui lui est si cher.
Il y a encore une porte qui va être réparée. Au verset 6, c'est Jehoiada, fils de Paseach, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la porte du vieux mur. Ils en firent la charpenterie et en posèrent les battants et les verrous et les barres. La porte du vieux mur. Par définition, c'est un mur ancien, quelque chose qui a été édifié sur des bases solides et qui reste. Ce mur que, malgré la ruine qui a entouré cette cité, est resté malgré tout debout. Et on répare à côté de ces vieux murs, la porte de ces vieux murs. Pour nous, il nous faut revenir à ce qui a été établi dès le commencement, c'est-à-dire le fondement solide qui est Christ. Sur ce fondement seulement, que malgré la ruine qui entourait l'Église, est resté debout, et l'enseignement de toute la parole de Dieu qui nous est donnée, donc en rapport avec ce fondement qui est Christ, c'est la solidité de cette parole, c'est la solidité de ces vieux murs qui est Christ, qui nous est présenté ici. Évidemment, il y a une réparation qui est faite, car pendant les temps, il y a quand même eu quelques anomalies qui se sont produites, quelques brèches sûrement. Mais ils la réparent, ils en font la charpenterie. Et ils y posent les verrous, les battants, les verrous et les barres. Donc ils la rendent solide. Il ne nous faut-il pas, à nous aussi, chers frères et sœurs, nous attacher fermement à la parole de Dieu, à la solidité de ses fondements établis une fois pour toutes, Christ. Et établir sur ce fondement, rendre sûr cette porte.
Sur des mots qui reviennent plusieurs fois dans la suite, que nous trouvons pour la première fois au verset 10, à côté de Répara Jedaïa, fils de Harumath, savoir vis-à-vis de sa maison. Nous le retrouvons par la suite deux ou trois fois. C'est très important, chers amis, dans la mesure où nous le pouvons, tant que nos enfants sont jeunes, et puis, avec le secours du Seigneur, de les séparer de la mondanité. Nous ne pourrons pas être des aides au sein de l'Assemblée si nous n'avons pas à cœur de réparer d'abord en toute humilité ce qui est vis-à-vis de nos maisons.
Encore un passage dans Proverbes chapitre 8. Donc c'est la sagesse elle-même qui parle. Et au verset 34, cette béatitude, bienheureux l'homme qui m'écoute ce que nous venons d'entendre de la part de notre frère Vega. Bienheureux l'homme qui m'écoute les choses établies par Christ lui-même demeurent. Celui qui m'écoute, comme le Seigneur peut dire, bienheureux celui qui écoute ma parole et qui la garde. Bienheureux l'homme qui m'écoute, veillant à mes portes, elles lui appartiennent en propre. C'est sa demeure où nous sommes tous entrés par pure grâce, selon la béatitude du psaume 32, et toutes les béatitudes des psaumes nous rappellent le privilège et la grâce de celui qui entre dans ce bonheur qui a son origine divine. Et ce sont mes portes. Tous les jours, il y a une vigilance constante, tous les jours, gardant les poteaux de mes entrées.
Cantique 138, versets 2, 3 et 5.
C'est pour
Thank you.
Donne.